Bien, nous allons reprendre. Ça fera venir peut-être les dernières personnes qui sont encore au soleil. Cette table ronde est autour de production et diffusion, radio, label, fanzine à Lyon. Et donc, on accueille ici, à côté de moi, Robert Lapassade, qui a fait beaucoup de choses, mais qui a aussi œuvré Radio Bellevue, qui a fait partie de groupes, Killdozer notamment, avec un bel album, je le dis en toute sincérité, Snapping Boys, que là je connais moins, mais que tu as rejoint à un moment donné de leur carrière. Nous avons à côté de Robert Maï, qui est une logisticienne, comme elle m'a dit. Donc voilà, elle nous expliquera ce que c'est qu'une logisticienne. Marine Achury, à côté. Alors, j'ai un trou de mémoire absolument affreux, je ne me souviens plus... ce que tu faisais, donc tu nous le diras aussi. Oui, tu nous le diras. Je ne représente pas, mais je le présente quand même, Didier Kelvin qui est à côté, qui est cette fois-ci auprès de nous parce qu'il était aussi Radio Bellevue. Et il nous manque David Bassot, en fait, qui est sur le programme, mais qui n'est pas venu aujourd'hui. La radio, les fanzines. Robert, tu veux commencer ? Non, parce que si je cède la parole d'abord aux femmes, on va dire que je fais du sexisme, donc... Je fais pas ça.
Moi, je veux bien faire du sexisme et de la politesse. Parce que je ne vois pas par quoi commencer. Tout juste si je saisis l'objet du débat.
En fait, je vais t'aider un peu parce que globalement, Radio Bellevue, je connais. Après, j'ai moins connu les autres personnes en tant qu'acteur, moi. Mais Robert Lapassade, à l'époque où moi je faisais un groupe, je ramène beaucoup de choses à moi. Mais c'est vrai que j'étais acteur de cette scène aussi. Et donc, il y a des choses qui remontent à partir de ça. Et... Robert Lapassade, c'était une des personnes qui n'était pas dans le mouvement punk. Tu n'as jamais été punk, au sens
non,
où on l'entend.
Non, pas du tout, non.
Mais qui faisait partie de groupes, qui faisait notamment ce fameux Killdozer, et puis la radio, Radio Bellevue. Et comme je viens de le dire, pour moi en tout cas, pour nous, le groupe, passer à Radio Bellevue, c'était une sorte de Graal. C'était la radio libre, on va l'appeler comme ça, qui était une radio majeure à Lyon. Donc... quelle est l'histoire du punk ou en tout cas de la scène lyonnaise avec Radio Bellevue? Alors vous pouvez intervenir tous les deux, je demandais à Robert. Mais...
Oui, parce que Didier faisait partie de cette équipe nombreuse qui s'est étalée sur 5 ans, 6 ans, dans deux lieux différents, avec des dizaines, mais je crois qu'on pourrait dire des centaines d'émissions et d'intervenants différents sur ces 5 ou 6 années. Pour une raison déjà simple, c'est que les radios, comme vous en souvenez, certains d'entre vous, c'était avant le digital, donc tout se faisait en direct. Il n'y avait pas de magnétophone pour passer les bandes. Enfin, il y en avait des magnétophones, mais ce n'était pas encore un système utilisé. Donc il fallait quelqu'un 24 sur 24, il fallait une présence, quelqu'un derrière les platines pour mettre de la musique si on voulait être 7 sur 7, 24 sur 24. Donc beaucoup de monde. J'en ai oublié évidemment énormément. Didier, non. Et on s'est revu il n'y a pas très longtemps, l'année dernière, à l'occasion de cette exposition qui a lieu au MAC, qui retraçait un peu, qui était une rétrospective de Frigo, ça s'appelait Frigo Génération, Frigo donc le collectif d'artistes qui incluait notamment Radio Bellevue, et qui décrivait cette exposition, ce qui s'était fait entre 78 et 90, pour mettre une limite à peu près, juste après la tombée du mur de Berlin, il se trouve qu'on avait un axe Lyon-Berlin assez marqué et que donc symboliquement c'était important de terminer à cette période-là. Et ça resitue un peu le contexte, mais donc la question c'est, oui je crois que c'était le haut-parleur, il y en avait, vous le savez, à partir de 80 une explosion de la radio FM puisqu'il y a eu la libéralisation des ondes, le monopole d'État est enfin tombé. Et qu'on s'est tous précipités, enfin on a été nombreux à se précipiter dans cette brèche immédiatement. Enfin la possibilité de passer la musique qui nous intéressait et que nous n'écoutions jamais sur les ondes, sauf très tardivement la nuit. Et puis aussi, pas seulement, c'est pas une histoire de musique et de rock ou de pop rock ou de punk rock ou de tout ce qu'on veut, puisque de multiples mouvements ont éclos à ce moment-là. Mais c'était aussi le fait de pouvoir faire de la radio au sens où on l'entendait pendant les nuits magnétiques, par exemple, sur France Culture, ou sur des expériences un petit peu encore assez rares à ce moment-là, mais qui étaient des expériences sonores. C'est ce qui nous intéressait et ce qui continue à nous intéresser aujourd'hui, puisqu'on a TV.
Oui, j'allais poser la question.
Cette radio en version web. Enfin, c'est une réincarnation lointaine, puisque la radio web n'a rien à voir, ou peu de choses à voir dans son fonctionnement, en tout cas avec une radio hertzienne, et surtout avec la radio hertzienne que je vous évoquais tout à l'heure, live en permanence. Là, nous sommes jamais live. C'est tout pré-enregistré, pré-produit. C'est une large boucle dans laquelle on peut insérer de façon directe quand même par des fenêtres FTP quelque chose de l'actualité, on va dire. Mais ce n'est pas du tout le même fonctionnement. On ne se rencontre pas, on ne se défonce pas autour d'une table, on ne boit pas de bière, on ne discute pas avec les autres. Et on ne termine pas sous la table, comme c'était souvent le cas aussi.
Il y a une page Facebook aussi, je crois.
Il y a une page Facebook, bien sûr. Je vous invite à aller venir faire un tour sur Radio Bellevue Web, donc RBW. Et on a aussi les liens classiques sur les différents réseaux sociaux. Et nous avons surtout une page SoundCloud qui permet d'aligner nos 400 podcasts actuellement, qui est une autre manière d'écouter la radio aujourd'hui, que je trouve, moi, très intéressante. Et qui se développe de plus en plus. Elle se développe d'ailleurs tellement que c'est encore pire que du temps de la FM. C'est-à-dire que du temps de la FM, on disait il y a tellement de radios, il n'y a plus de fréquences pour les placer. Quelques-unes se partageaient même les fréquences, si vous vous en rappelez. Mais ça paraissait déjà énorme et c'était rien du tout à côté de ce que sont maintenant les radios web, qui sont des milliers à disposition et qui, sur un réseau qui est planétaire maintenant. Donc nous, qui faisons nos petits trucs depuis Villeurbanne ou la Croix-Rousse, sommes écoutés à Singapour. Et en Terra Deli,
oui,
très régulièrement. Nous avons beaucoup d'auditeurs en Islande également.
Et alors, l'autre question qui recouvre un peu tout ça, c'est de savoir quelle était. Est-ce que vous aviez à l'époque, et est-ce que la version web a une, le mot un peu fort, mais une politique pour le local, c'est-à-dire vraiment la diffusion des groupes locaux. Est-ce qu'il y avait des émissions qui étaient prévues pour ça? Est-ce qu'il y avait des animateurs qui avaient cette idée-là en tête? Ou est-ce qu'on vous envoyait une cassette, elle vous plaisait, vous la diffusiez? Moi, je me souviens d'avoir fait beaucoup d'interviews sur des radios locales à Lyon, de gens qui faisaient des émissions, puis on était invités et on passait notre cassette au milieu d'un tas d'autres, etc. Quelle était la politique de Radio Bellevue là?
Bon, on était quand même plus... Enfin, je me permets de continuer parce que je suis chaud. On était quand même beaucoup plus ouverts sur le monde, justement. Encore une fois, je parlais d'univers tout à l'heure, mais là, sur le monde. Donc, on écoutait la musique internationale, c'est ce qui nous branchait. Les mouvements, d'ailleurs, se créaient, comme toujours, un peu à l'étranger, un peu en Angleterre et aux États-Unis et en Allemagne. Un peu plus que chez nous, c'est un peu le snobisme qu'on avait en tout cas, avant de se pencher effectivement sur la scène locale ou nationale. Et là, il y avait de quoi faire aussi, on s'en est rendu compte petit à petit. Mais au début, il y avait quand même cet attrait pour tout ce qui était, pour faire court, anglais. Mais bien sûr qu'il y avait des émissions locales et les groupes, pratiquement tous les groupes locaux avaient un représentant qui faisait une émission à Bellevue, plus ou moins. Et Rachida faisait de la radio, Marie et les garçons faisait son émission bien célèbre en direction des prisons parce qu'elle y avait de la famille, qui s'appelait donc Désolé Isolé. John Ferny de Tels avait son émission aussi. Enfin, je crois qu'à peu près tout le monde et tous les groupes avaient ou leur émission ou des représentants qui intervenaient dans une des émissions. Je vous dis, elles étaient fort nombreuses et elles s'enchaînaient 24 sur 24. Bien. Mais il y avait un regard local, évidemment. Je pense qu'on a même contribué avec Electric Calas, dont je trouve qu'il n'est pas très souvent cité dans cette opération PIN, puisqu'il... Didier m'a dit qu'il l'avait été, mais...
J'en ai parlé ce matin.
Je trouve qu'il représente quelque chose au niveau de l'étiquette du punk strict, on va dire. Plus précise que Marie et les garçons, par exemple. Mais en tout cas, je voulais dire que Jean-Gilles...
Il était invité et il est à Genève aujourd'hui. Donc,
très bien.
Voilà. Mais il a été invité.
Ah, il
n'est
plus
même
en Ardèche. Voilà.
Et j'ai passé Sochic hier.
Ben, c'est très bien. Donc, on avait bien sûr des intervenants locaux et toutes les célébrités locales essayaient de passer dans ce que tu décrivais tout à l'heure comme le pinacle.
Parce qu'était la radio FM locale. Quand on était en bas de l'échelle, il y avait Radio Bellevue.
Mais
radio
pas du
Canu,
tout, en fait. Je pense que c'est une idée que les gens se faisaient. Nous, on n'avait pas cette attitude-là. Puis on pouvait d'autant moins la voir. Tu pourras en revenir à ta question sur le local. c'est qu'on était hertien et qu'il y avait 30 km de portée et que point barre, on était écouté à Lyon et c'est tout. Personne ne savait ce qu'on entendait sur Bellevue à Paris, même à Dijon et même pas à Villefranche. Donc oui, c'est resté très local, la radio hertzienne. Après, la légende a propagé les choses et les cassettes étaient là pour ça, mais c'était local.
Alors, on va peut-être changer complètement de sujet, mais tu m'as dit, puis tu es intervenu tout à l'heure à ce sujet-là, tu m'as dit, présente-moi comme une logisticienne. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une logisticienne dans le milieu du rock, dans le milieu du punk rock ?
Alors, je dis logisticienne parce qu'en fait, c'est assez difficile de se définir soi-même, d'essayer d'avoir un regard un peu... critique sur ce qu'on a fait, mais bon voilà, moi je me suis rendu compte que dans cette scène punk en fait bien que j'y sois rentrée par l'aspect esthétique quand j'étais plus jeune, c'est ça qui m'a beaucoup attirée et ensuite j'ai une entrée on va dire plus éthique et politique, donc j'ai chanté très rapidement dans un groupe punk, ça a duré 6 mois, 1 an, 3 concerts et basta, sur les pentes de la Croix-Rousse. J'ai trouvé ma place, j'ai pris ma place dans l'organisation. Alors j'avais la chance de pas trop mal me débrouiller en anglais et donc j'écoutais Radio Bellevue. Et j'écoutais des émissions sur Radio Bellevue, notamment Western Front, qui apportait en fait un courant musical hardcore punk américain, avec plein de groupes qui étaient sur Alternative Tentacles, qui était le label des Dead Kennedys, enfin de Jello Biafra, le chanteur des Dead Kennedys. Et donc là, j'ai eu une entrée donc dans ces années-là. C'était la fin des années 80, puisque je me rappelle que la fin de Radio Bellevue, ça doit être 89, non ?
Non, c'est plutôt, c'est 85, 86, c'est plutôt qu'on ne le pense, ouais. L'idée a continué comme ça, mais on a eu une fermeture réelle. L'article de Libé, c'est...
Octobre 86, avec le fameux concert à la Bourse du Travail de New Model Army. Voilà, donc où j'étais, bien sûr.
L'article est posté sur la page, je l'ai vu récemment, de Radio Bellevue, l'article annonçant la fermeture, il me semble.
Et donc, moi, ça faisait déjà des années que je grenouillais, on va dire, dans le milieu du punk rock. Et puis, ce qui m'intéressait, c'était l'organisation. Alors, organisation de concerts, organisation de tournées, et puis surtout le DIY. Parce que là, pour le moment, on n'en a pas beaucoup parlé, le do-it-yourself. Donc, c'était des choses qui étaient hyper importantes. Et puis d'ailleurs, je reprends ce qu'a dit Didier tout à l'heure, parce que quand il parlait de punk rock, il disait une vraie envie d'indépendance culturelle. Le refus des statuts de vedette, être créatif. Et en fait, moi, là-dedans, en fait, j'ai trouvé ma place dans ce monde-là du punk rock où, effectivement, on rejette la culture qu'on nous a donnée et grâce à laquelle, d'ailleurs, on a pu avoir cette analyse-là. Et alors je me suis mis à organiser des trucs. Alors, pas toute seule, bien sûr, toujours avec des gens qui portaient des projets jusqu'à ce que moi, je porte les miens, quoi. Donc ça s'est passé dans les années à partir de 84-85, la rencontre avec des gens, des gens d'Aine Brigade par exemple, qui avaient un magasin de disques rue du Docteur Ogro qui s'appelait Attaque Sonore, ensuite l'arrivée sur Lyon de Rico Maldoror qui était label manager de Gougnaf avec lesquels... avec lequel on a travaillé sur la sortie d'album des Rats, des Shérifs, de Parabellum, ces choses-là. Le premier groupe de hardcore lyonnais, Parkinson Square. D'ailleurs, il y a Bub qui est ici, qui faisait partie aussi de l'aventure. Coucou. Le management aussi d'un groupe qui s'appelait Condense, qui a fait quand même 3 albums sur un label indépendant de Marseille qui s'appelle Pandemonium Records, émission de radio, fanzine. Donc, en fait, un petit peu au four et au moulin là-dessus. Et toujours vouloir contrôler. Pour ne pas être contrôlé, c'est-à-dire on décide nous-mêmes de faire ce qu'on veut faire, on prend le commandement. Voilà, on se pose pas de questions. Donc on investit des lieux, le local par exemple de répétition de carte de séjour au 32 rue des Tables Claudiennes où on organise une grosse partie de nos concerts. On va jouer au CCO quand on a besoin d'une salle avec plus d'équipement. On fait jouer tous ces groupes américains qui sont une sorte pour nous de renouveau du punk, parce que le punk anglais, en fait, il est déjà mort. Le punk américain, il est différent. C'est les années Reagan, ils ont des choses à dire. Ça nous dit quelque chose, ça nous interpelle. On s'intéresse à leur discours, donc on veut les faire passer. Et puis, Au milieu de tout ça, je me rends compte, a posteriori, c'est en fait en réfléchissant à ce que j'allais pouvoir dire en venant ici, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un paquet de filles dans ce milieu-là qui n'étaient pas forcément sur le devant de la scène. Il n'y en a pas beaucoup, hein, des nanas. Et par contre, on était des logisticiennes, c'est-à-dire qu'on était derrière, on s'occupait du machin. Bon, je pense que les filles qui étaient investies là-dedans, elles sont venues, elles ont pris le pouvoir, elles n'ont pas attendu qu'on leur laisse une place ou quoi que ce soit. Donc du coup, finalement, on était respectées et quand il y en a un qui nous emmerdait, ben, on lui mettait un pain dans la gueule et puis c'était réglé.
Vous étiez les éminences grises des
artistes. Les éminences grises, pas forcément, mais disons qu'en fait, on avait un rôle qui était quand même non négligeable dans le sens où, ben voilà, par exemple, quand on manage un groupe qui fait 3 albums, qu'on monte des tournées, qu'on arrive à faire 40 dates d'affilée sur une période de 6 semaines en France, bon, évidemment, pas avec des gros cachets. Puis alors, il y a un truc, moi, qui m'intéresse aussi, qui est important de noter, c'est que à cette époque-là, c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut partir en tournée avec un simple smartphone. À l'époque, c'était pas du tout le cas. Monter une tournée, c'était contacter les gens par téléphone ou alors des fois par fax. C'était aussi la mise en place de réseaux. Toutes les émissions de radio de votre région, tous les gens qui avaient des fanzines, tous les gens qui étaient organisateurs, construire le réseau, alimenter ce réseau, c'est-à-dire faire des allers-retours incessants à la poste. On fait des tracts, on va les photocopier au Corep, le truc des étudiants, là. On découpe les tracts, on massicote, on envoie des trucs de partout. Ça nous coûte un bras en timbre, en poste, etc. On fait des roadbooks pour partir en tournée. Tout à l'heure, je montrais, là, j'ai quelques archives. Donc, pour partir en tournée, bah, finalement, on demande aux organisateurs de concerts, bon, bah, ok, on va jouer, super, c'est où, à quel endroit, envoyez-nous le plan de votre ville, mettez-nous un coup de stabilo sur le truc qu'il faut suivre, on n'a pas de GPS.
Il n'y a pas de GPS. Oui.
Voilà, donc c'était un vrai boulot. Moi, j'ai passé je ne sais combien d'années de ma vie à faire ça sans jamais vouloir être intermittent, parce qu'en fait, bah, nous, ce n'était pas la gloire et la fortune qui nous intéressaient, c'était le fun du punk rock, quoi. C'était... on y va. On y va.
Alors, justement, le fun du punk rock, Marie, tu es plutôt sur quelque chose de contemporain avec un label, mais je crois que tu as affaire aussi avec un groupe que moi j'aime beaucoup, au point que j'ai un autocollant sur mon ampli, c'est Brissy sa pute. Tu peux nous parler un peu de ça?
Eh bien, ouais, moi je.
D'abord, est-ce que ça tourne encore, Brissy sa pute? Parce
oui,
que moi
oui,
j'ai
oui,
un souvenir des 4-5 ans déjà.
On va commettre un nouvel album en septembre. Et bon, on est très lent, hein. On a fait 2 albums dans notre vie. On va simplifier encore ouais. Plus que jamais, mais si c'est encore possible de simplifier. Mais moi, c'est rigolo parce que je suis née en 86, donc là, il y a vraiment des choses que je connais pas. Et en même temps, il y a plein de gens que j'ai rencontrés pour faire des groupes. Enfin, il y a des noms qui surgissent. Moi, je suis arrivée à Lyon à un moment où c'était plutôt Lion Soul, Rai Théâtre, Clos Fleury, en gros, on va dire. Donc, tout ce qui est Pesner, déjà, c'était au revoir. Mais bon, le grand zéro émergeait. Ouais, moi, je fais partie de Brissy sa pute. Brissy sa pute, c'était un groupe dissident, quelque part, en tout cas, sur le fil. Et ça en est suivi une volonté de monter
mais,
une structure.
Mais musicalement intéressant, excuse-moi de t'interrompre, mais ouais. Que j'ai toujours trouvé musicalement intéressant, Brissy sa pute, en plus du spectacle, mais rien qu'à l'écoute, déjà, il y a des... Moi, je trouvais ça intéressant.
Bah, c'est un peu ambigu, c'est exactement ce que disaient des jeunes gens qui étaient là vraiment au tout début de journée, là, c'est que le punk, nous, c'est pas... Il y a une viscère... Je sais pas si ça dit, viscéralité, je sais pas si
bon,
c'est
on va exact, le dire.
Inventons-le, qui est pas forcément là, parce que on n'a pas une colère, ou en tout cas, elle n'est pas très claire, elle n'est pas très dessinée. Et du coup, le punk, c'est quelque chose qu'on écoute, qu'on analyse, et du coup, Pierre et moi, pour citer mon collègue de Brissy sa pute, on ne vient pas du punk. On a été touchés de travers. C'est des pics étranges et pas forcément clairs dans nos têtes. Et puis moi, j'ai fait beaucoup de musique classique, donc je ne viens pas du tout de ça. J'ai fait beaucoup de chorale. J'étais catholique. Je voulais être bonne sœur. Enfin, rien à part.
Donc,
il y a vraiment eu un revirement, mais qui n'était pas. C'était pas autour de moi que naissait une mouvance à laquelle j'avais envie d'adhérer. Ça s'est présenté par hasard, quoi, une espèce de un revirement, quoi. Et ce qui est intéressant aussi dans ce que tu dis, c'est que bon bah voilà, nous le DIY, je sais pas, punk, c'est une notion qui est très difficile à manipuler pour nous, parce que nous, on est d'une autre génération. Il y a un côté, effectivement, il y a un ras-le-bol de l'image de ça, il y a un ras-le-bol de plein de choses comme ça. Et en même temps, il y a une énergie qu'on ne sait pas forcément repérer, qui a pas de forme et qui est là. Mais le DIY, pour nous, ça a été de monter brisser sa pute, de le faire, d'aller jouer partout, dans des pizzerias minables, dans des bars, on se dit, mon Dieu, est-ce que ces trois personnes vont vraiment regarder ça? Et le faire dans une urgence de faire, quoi. Et puis une radicalité totale et la nécessité de se fédérer. Donc très rapidement, en fait, on a monté une asso pour faire entrer des thunes parce qu'à un moment donné, on est face à des associations qui ont des structures et ils nous disent, on peut vous donner 100 francs, mais il va falloir faire une facture. On est là, ah bon. Donc montons une association et cette association, elle s'appelle Dur et Doux. Et Dur et Doux, aujourd'hui, c'est un label, c'est un collectif d'environ 25 à 30 groupes de Rhône-Alpes qui se sont fédérés. C'est un collectif à l'envers, parce qu'en fait, c'est pas des gens qui se sont rassemblés en se disant « Tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble ?» C'est plutôt un pôle administratif de gestion de contact, de capacité de faire, qui ont fédéré des musiciens ensemble. Et voilà, moi, je fais partie de ce collectif qui s'appelle Dur et Doux, et je sévis dans certains groupes de ce label, quoi.
Voilà. Quelque chose à ajouter, Didier, à tout ça ? Parce que je pense que, une fois que tout le monde aura parlé, on vous cédera la parole si vous avez des questions. Vas-y, je t'en prie.
Non, mais alors moi, comme en 86, j'étais déjà vieux, je vais revenir sur Radio Bellevue. Juste pour contextualiser, il faut quand même penser qu'en 81, ce dont on a parlé ce matin, enfin en tout cas moi, le punk, finalement, c'est vraiment fini depuis 2 ans. Il y a des groupes qui font des émissions, enfin des gens des groupes, mais souvent ils sont déjà plus de groupes. Et donc ils font plutôt partager la musique qu'ils aiment, soit qu'ils ont aimé. Il faut penser à une chose aussi, j'en parlais avec Mark Perry justement, dont j'ai parlé tout ce matin. Il faut voir ce que faisaient comme musique les gens qui avaient fait du punk en 77, en 81. Parce que moi quand j'ai réécouté, j'ai digitalisé des cassettes que j'avais gardées, parce que j'avais rien gardé du groupe, je voulais oublier tout ça. Mais j'avais beaucoup gardé mes cassettes, parce que comme je me trouvais très mauvais, je m'écoutais en disant « ça faut plus que je le dise, ça faut plus que je le dise ». Donc j'avais gardé les cassettes, qui étaient des cassettes de travail pour moi, pour être un peu moins mauvais. Et donc j'ai digitalisé pour il y a un an pour Radio Bellevue. Et j'ai écouté, j'ai dit « mais j'écoutais ça moi à l'époque, mais c'est pas possible quoi ». Et en fin de compte, si vous regardez Vic Goddard, Mark Perry... John Lydon, même à la limite, mais encore plus certains, ils étaient passés sur de la pop. Et on écoutait beaucoup de pop. Et des choses très légères, même. Et c'était souvent Mark Perry, il faut voir ce qu'il faisait comme truc solo, quoi. C'était vraiment des chansons d'amour pour sa petite copine. Je parle pas de Dan Tracy, de Television Personalities, que j'ai toujours adoré, et tout ça. Et c'est donc, il faut voir que si on voit pas cette césure de temporelle, on prend pas conscience de pourquoi Bellevue, a été une radio dans laquelle il y a eu assez peu de punk, en fin de compte. Même. Je dirais même que les grands débats qu'il y avait, c'était plutôt entre ceux qui étaient très rock américain et ceux qui étaient très pop anglaise. Moi, j'étais plutôt pop anglaise. Moi. Et que je me souviens, quand les Smiths sont arrivés, c'était la guerre civile, quoi. Parce que il y avait ceux qui trouvaient que c'était même pas de la musique, et puis ceux qui trouvaient que c'était vraiment le nec plus ultra. Bon, moi, j'étais plutôt du côté de ceux qui aimaient ça. Mais... voilà, donc c'est pour dire que on est vraiment dans deux époques très différentes. Et ce qui était génial chez Bellevue, c'est le fait qu'il y avait une liberté de dire tout ce qu'on voulait. Moi, je me suis permis des trucs insensés dans différentes émissions, parce qu'après j'ai fait des émissions purement politiques où je déblatérais pendant une demi-heure sur des sujets politiques en disant des trucs qui me vaudraient maintenant des procès, etc. Et on me disait non, mais ça va, dès qu'elle vient, c'est bon, vas-y. Et donc c'était génial. Je pense aussi que parfois, j'ai un souvenir, je ne sais pas si Robert se souvient, du travail qu'on avait fait pour le Rita Mitsuko avant qu'il devienne célèbre. Et on avait passé Marcia Baila en boucle pendant des semaines et des semaines et des semaines. Et parfois on faisait un travail un peu de précurseur et le morceau est devenu très célèbre. Alors après quand ils sont revenus à Lyon, hélas, ils n'ont pas été très corrects parce qu'ils n'ont pas renvoyé à l'ascenseur.
Il y avait eu Lilliput aussi qui était venu, Lilliput qui était venu de Suisse avec Stéphane Eicher qu'on a découvert à ce moment-là, qu'on a aussi pas mal suivi pendant ses débuts en tout cas. Et puis Carte de séjour, Rachid, Stevie Ledge qui vient d'ailleurs à l'occasion d'un concert que donnera Rachid à l'Opéra de Lyon en septembre. Stevie Ledge habitait la Radio Bellevue pendant qu'il faisait les répétitions de l'album Roromani. Oui, on a toujours été assez proche des groupes à cette époque, et pas seulement locaux, effectivement, ceux qui utilisaient Bellevue comme plaque tournante au niveau du territoire, en tout cas pour ce qui concernait le Sud-Est. Mais c'est important, comme tu le disais à l'instant, de resituer, peut-être c'est à toi de le faire, de resituer bien les périodes, parce qu'on parle effectivement pas toujours de la même chose,
oui.
Surtout quand on utilise cette étiquette très large du punk. Et tu as fait part de ton expérience qui correspond finalement à l'après Bellevue, l'arrivée du noise. Effectivement, il y a eu un mouvement, et même le mouvement punk, N-Brigade, local, la Croix-Rousse, c'est finalement post-punk, parce que le punk est, comme tu le disais, mort en 80, on va dire, en 81, quand on va être large. Mais donc c'est une période météorique très courte, très intense, et qui se termine déjà en 80. Tout à l'heure, ça a été dit, les Slits, elles-mêmes le disaient. Donc, toi, tu parles encore d'une période qui suit. Et d'ailleurs, cet état d'esprit, ce que tu décrivais tout à l'heure comme quelque chose d'un peu impalpable, une énergie qui a été captée, reprise par d'autres. Les générations se sont enchaînées, et tant mieux. Et Lyon n'était pas la dernière. Je pense notamment à ce mouvement Noise, qui était vraiment important, fort, costaud, décoiffant, mais qui suit une période qui elle-même suit les fameuses années 60, parce que des vieux comme moi et Didier, je ne sais même pas quel âge t'as, mais tu ne dois pas être tout jeune non plus. Mais nous, on vient de la contre-culture des années 60, 70. Les punks, pour nous, c'est en 69 que ça commence à se passer. Donc, c'est à Detroit, c'est pareil. Bien sûr, les Stoods
et MC5,
hein. MC5, il y en avait d'autres aussi, mais cette énergie-là, on l'avait déjà adoptée, et puis on a été très contents d'en retrouver une ressucée différente et avec une esthétique différente à partir de 76-77, et qui est donc morte 3 ans plus tard, grosso modo. Comme toutes les modes, elles sont très éphémères, mais après, il faut le temps que ça arrive, et puis il faut le temps que ça arrive en France aussi. Nous, on a toujours tout récupéré un petit peu derrière, donc on a 3 ans de décalage, grosso modo, avec les mouvements là où ils naissent, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit en Angleterre. Donc, il est important de situer bien les périodes, parce qu'on ne parle pas forcément de la même chose, ou en tout cas, on n'a pas été actif de la même façon au même moment.
Alors, c'est vrai, bon, j'en parlais hier, mais en même temps, là, on est en train de parler d'une période qui commence au début des années, fin des années 70, avec le punk, etc. Mais même si on lit dans les articles de l'époque qu'il ne se passait rien à Lyon avant, ce que disaient surtout les punks, et notamment le batteur de Starshoot dans un article de Best, il ne faut pas oublier que dans les années 70, on avait des groupes comme Pulsar, comme Sphéroé, qui existaient déjà, qui étaient une sorte de scène lyonnaise malgré tout. Et puis il y avait aussi les rockers de Ganafoul.
Oui, alors les rockers, il n'y en avait pas beaucoup. J'entendais tout à l'heure dans les longues exégèses sur Marie et les garçons... que Vidal parlait de ces rockers contre qui il voulait, vis-à-vis desquels il voulait se démarquer en laissant tomber la bimbeloterie. Je comprends très bien. Sauf qu'ils n'étaient pas très nombreux à Lyon. Lyon, ça a toujours été une ville bourgeoise. Et moi, nous, les rockers en question, ce qu'on a trouvé risible dans cette espèce d'esthétisation, d'intellectualisation des choses, maintenant en plus on en rajoute, mais la pochette, le rapport qu'on peut faire dans l'histoire, etc., avec des esthétiques et des courants culturels plus hauts et plus forts que ce que veut dire le rock au départ. Le rock, c'est quelque chose de basique, de teenage, de spontané, et qui ne réfléchit pas tant que ça au départ. Et ce look cravaté, les jeunes gens modernes, ce qui est apparu plutôt, je dirais, symboliquement dans les années 80, pour faire court, c'est quelque chose qui nous faisait éclater de rire au début, parce qu'on se disait, mais enfin, voilà, il ressemble au look que nous, on nous imposait quand on était chez les curés, par exemple, à l'école, dans les années 60. Il ressemble au look bourgeois de cette ville bourgeoise qu'est Lyon, et qui n'accepte rien, qui veut rien savoir de cette contre-culture. Et on prend leur attitude. Alors, l'antrisme, c'est quelque chose que j'ai appris à apprécier après. Le fait de se looker comme un banquier pour niquer le banquier, pourquoi pas ? C'est une attitude, effectivement. Mais il ne faut pas trop mélanger et trop caricaturer les choses en disant que les rockers d'avant, avec des boots et du cuir, étaient devenus des clowns. Et que c'était classe de ne plus avoir de look, de la non-attitude, comme on disait tout à l'heure. C'est autre chose, c'est une autre manière d'amener les choses, je la respecte tout à fait, et nous avons plongé dedans, évidemment. Radio Bellevue en a été un haut-parleur pendant des années, mais ça n'enlève rien à la rébellion et à ce qu'il y a de commun avec le punk dans ce qu'on appelle un rocker. Avec un, voilà, il faut pas non plus tout mélanger. Les rockers, tout le monde ne vient pas de l'ère des pionniers non plus. Ne chantez pas Biba Bolula et vénérez Elvis Presley. On avait un peu tourné la page. On était dans des choses un peu plus teigneuses quand même. Et cet état d'esprit teigneux, on était comme tout le monde. Je parle des sexagénaires et au-delà, comme moi. On était très heureux de retrouver cet état d'esprit et cette énergie quand elle est arrivée, effectivement, en 76-77. Et c'est arrivé par le pub rock, d'ailleurs, pour moi, par le pub rock anglais, par les Feel Good, Eddie and the Trots, des groupes comme ça qui étaient très rock'n'roll, qui, eux, ne rejetaient rien des clichés du rock'n'roll. Simplement, ils y mettaient une putain d'énergie, du fringanor, de la coke et beaucoup de bière. Et ça allait très vite, et ça envoyait, et c'est la pochette avec le côté nihiliste de la pochette d'Edian Hotrods avec le pistolet sur la tempe, montrait bien qu'on était dans une attitude punk, mais en tout cas l'amenait, le préparait. Les Dr. Feelgood aussi, tout en chantant comme Owen Wolf, en faisant une musique qui remontait au Delta et aux années 40-50, aux États-Unis. Voilà, donc tout bien remettre en place parce que les étiquettes sont glissantes et s'il en reste une qui perdure, peut-être c'est celle du punk, c'est vrai. Le pub rock, tout le monde l'a oublié, mais le punk c'est resté parce que ça avait une image très forte. Et puis il y a un côté extrémiste, nihiliste, contestataire, anticulturel ou contre-culturel qui a défrisé suffisamment de monde jusqu'à les faire monter tout droit sur la tête. J'en vois un là d'ailleurs, sacré punk.
Non, mais c'est devenu court quand même, il en reste un peu.
Oui, voilà, donc...
C'est confus. L'idée, alors, oui, mais parce que l'histoire est confuse, de toute façon, entre tout ça. Mais justement, c'est pour ça que vous êtes là aussi, pour établir votre vérité avec laquelle on va se nourrir. Mais ce que je voudrais te demander, Marie, justement, par rapport à ces différentes époques, c'est que quand Brice et sa pute apparaît, il y a déjà des réseaux sociaux, il y a déjà Internet qui existe, et c'est tout à fait différent comme DIY, à mon sens, que celui où il fallait se colter les flyers tout seul, les découper, etc. Est-ce que ça, pour toi, est-ce qu'il te semble que ça a changé quelque chose, même si tu n'as peut-être pas vécu le côté sans Internet? Né en 86, tu nous as dit.
Ouais.
C'est ça, ouais.
Non, je n'ai pas connu le sans Internet. Et puis, moi, Brice et sa pute, je l'ai monté, j'avais déjà 19 ans. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui a fait ça jeune, en fait. Enfin, 19 ans, ce n'est pas spécialement jeune.
Ouais, c'est quand même pas mal jeune.
Ouais, mais c'est pas... Enfin, j'avais pas 14 ans, j'avais pas plein de picous sur les bras.
Quand on les a plus, en fait.
Oui. Non, mais après Internet, ça a changé, ça a pas changé. Quand vous me parlez de la Corep, nous c'est pareil, hein, j'en viens. Hein, c'est-à-dire que j'organise un festival en septembre là ici. Marie-Emmanuel m'a aidé à imprimer des trucs, mais la Corep, c'est toute ma vie. Hein. Les flyers, les affiches, est-ce qu'on fait des A2 ou des A3, est-ce que machin. Après, c'est sûr que l'outil, il est beaucoup plus rapide et qu'il y a des absurdités qu'on rencontre maintenant. Viens, on monte un groupe, qu'est-ce qu'on met comme photo de bannière? Est-ce qu'on s'appelle mon cul ou est-ce qu'on s'appelle ma bite? Voilà, enfin, maintenant, les urgences sont pas là, presque. Enfin, il y a un truc bizarre, parfois. Dans le discours des gens.
Est-ce que ça change quelque chose pour la diffusion de la musique? Parce qu'il y a une époque où il fallait qu'on aille en studio, qu'on enregistre un disque, qu'on aille le faire presser ou qu'on fasse des cassettes, etc. Aujourd'hui, même moi, j'ai un Bandcamp et un SoundCloud, je mets le truc dessus.
Et je passe ma journée sur YouTube à écouter des choses obscures et je les trouve tout de suite, c'est sûr, c'est sûr. Après, le secret de trouver des choses inécoutables, il existera toujours. C'est-à-dire que même dans tout cette ouverture, moi, il y a toujours des gens qui me disent « Il faut que t'écoutes ça, tu peux le trouver nulle part, tu le trouveras pas sur YouTube, il n'y a pas de monde comme ça. » Les mystères, il y aura toujours la place au secret et à la préciosité d'un truc inconnu. Enfin, je pense que ça existera toujours.
Ce que je voulais te dire vis-à-vis de ça, c'est qu'en fait, c'est la fin du local. Avant, on avait accès à quelques disques, on inventait quelque chose de très local, une espèce de scène qui avait beaucoup d'identité. Aujourd'hui, on a accès à tout, donc il faut essayer de réinventer ça, quoi. C'est la grande différence avec les 70, 80 ou 90. Quoi.
C'est exactement ce que je voulais dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as raison, Marie, en fait, le truc, c'est que ça va plus vite. Effectivement, si on veut, on peut toujours faire des flyers, des affiches, etc. Sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte que toute la promo des concerts, etc., ça se passe souvent sur des événements Facebook ou des trucs Instagram. Bon. Moi, je veux juste raconter une anecdote. C'est dans les années 80, j'ai envie d'acheter des disques américains de hardcore, un truc qu'on trouve pas en France. Donc, il y a une mailing list à Paris qui s'appelle Jungle Up. Tous les mois, je reçois ma mailing list. Je choisis des disques sur les noms de groupes. Il y a même pas des fois une ligne pour expliquer ce que c'est. Ça coûte 50 francs. À l'époque, je suis en pension. C'est
8 euros.
Ouais, c'est mon argent de poche de la semaine, quand je ne dépense pas à la FNAC avant. Je commande un truc, ça met 3 semaines, voire 6 semaines à arriver. Je vais à la poste. Alors, le postier me met un truc dans ma boîte aux lettres. Je vais à la poste, je vais chercher un carton, je le découpe. Il y a un blister, je découvre la pochette, je découvre l'insert, je mets la galette sur une face, sur l'autre face. Et c'est le disque du mois ou du mois et demi que j'achète, et je l'écoute et je le réécoute et j'apprends l'anglais avec les paroles, etc. Aujourd'hui, on découvre plus les choses de la même manière, à part pour les puristes, hein, je veux dire. Mais les gamins aujourd'hui, moi j'ai deux adolescents, c'est des consommateurs de musique numérique et en fait, ils ont tout à portée de main. Donc il n'y a plus cet effort aujourd'hui que nous on faisait, alors à part quand on est très curieux, mais cette curiosité de vouloir aller chercher, de peut-être se tromper, d'acheter un truc qui nous plaît pas, de pas savoir si on va pouvoir le revendre, etc., etc. Et mais voilà quoi. En fait, c'est le monde a changé. Moi, je pense qu'il y a un truc aussi qui est important, c'est que le monde a changé. On n'a plus les mêmes urgences. En tout cas, il y a eu une époque où il fallait être curieux, il fallait être couillu, il fallait avoir envie de faire des choses, il fallait qu'on se prenne par la main. Ah non,
micro.
Mais c'est pas une critique. C'est ce que je veux dire, c'est que on voit, enfin. On peut en discuter pendant des heures et des heures, mais là, on est quand même entre gens qui sont intéressés par la question, donc on est curieux. Si on est là, c'est qu'on est curieux.
Justement, il nous reste très très peu de temps, donc je voudrais d'abord merci, mais il faut qu'on Philippe vient de me dire, il reste 2 minutes. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions à poser à nos intervenants ici, parce que c'est important aussi que vous essayiez de participer puis de poser les questions tant qu'il est temps, même si je pense que chacun d'entre eux.
Il reste 2 minutes, tu viens de dire là.
C'est ce qu'il m'a dit, oui.
Je suis dingue.
Bon.
Donc, bon, on a l'impression qu'on avait, on s'était juste présenté là.
J'écoute. Non mais il me dit 2 minutes, mais vous inquiétez pas, elle dure jusqu'à 5 heures. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Mais alors posez-les vite. Hein.
Pendant que vous réfléchissez aux questions, voilà. Et qu'on vous passe le micro, je voulais juste dire qu'il y a un aspect intéressant dans ce qui a été dit aussi tout à l'heure par nos consoeurs. Et c'est le do it yourself. La structuration du milieu de la musique d'une manière générale et des groupes en particulier, c'est quelque chose qui a évolué très vite à partir des années 80. Dans les années 70, c'était vraiment le Moyen-Âge, ce que tu te remémorais tout à l'heure de travail, de Ronéo, tout ce qui était artisanal. C'est quelque chose qui a vraiment démarré dans les années 70, justement. Et le do-it-yourself, ça va de soi, parce que absolument aucune structure institutionnelle, notamment, ne nous venait en aide, ne s'intéressait à ça. Aucune structure tout court, d'ailleurs. Il fallait tout créer soi-même. Et ça s'est beaucoup développé dans les années 80, jusqu'à devenir presque too much maintenant. Et c'est le développement des salles, les SMAC, les différents lieux où les groupes ont pu tourner. Avant, c'était des bars ou des granges de campagne ou des premières parties de balles aussi, ça arrivait.
Chaponneau.
Donc la professionnalisation de tout ce... oui, c'est ça. Balles à chaponneau.
Ouais, ouais.
La professionnalisation de tout ça, ça a démarré effectivement dans cette fin des années 70 et des années 80. Et donc ça correspond aussi à ce virage punk qui est quand même l'objet du débat.
J'ai une anecdote, j'aimerais... je n'ai pas vu, quelqu'un voulait parler ? Non, c'est juste par rapport à ce qui se fait, non, parce que moi je suis toujours très branché sur ce qui se fait, notamment par Bandcamp. Je trouve ça extraordinaire que les groupes puissent gagner la totalité pratiquement de ce qu'ils font comme musique quand on achète un disque. C'est quand même extraordinaire. Après ils disent, bah, si on en vend assez de notre MP3, on fera l'album en dur, et on reçoit l'album en dur. Et récemment, j'étais content, par exemple, j'ai payé une partie de la réparation du camion d'un groupe que j'aime. Alors, le type est venu en disant, on peut pas faire notre tournée, notre camion est cassé. Voilà, vous allez là, vous cliquez, vous nous donnez. Alors moi, j'ai cliqué, j'ai donné des sous. Et après, un mois après, il a dit, bah, c'est bon, on peut partir. On a réparé notre camion grâce à vous. Et ça, moi, à l'époque, j'aurais adoré aider à réparer les camions des groupes que j'aimais. Et je trouve que ça, c'est quand même quelque chose qui est super. On se sent une partie intégrante. Et le dernier album de Buzzcocks, il a été fait. Ils ont dit, bah, écoutez, on voudrait enregistrer un album, on n'a pas un rond. Et on a tous mis la main à la poche, et 6 mois après, l'album est enregistré, on l'a reçu, et voilà, et je trouve que ça, c'est, moi j'adore.
Et ça, c'est encore la communication, enfin, ou l'échange, les réseaux sociaux, mais le son aussi, simplement un groupe pour enregistrer une vague démo, et encore plus un disque, c'était un... c'était inatteignable pratiquement dans la plupart du temps. Et quand ça l'était, c'était fait dans des conditions tellement empiriques et tellement à la voix comme je te pousse et à la française, on va dire, pour la partie son, qu'on avait des albums de merde avec des sons de merde. Donc on rêvait tous du producteur, de que ça soit pour marier les garçons. Qu'il soit new-yorkais, qu'il s'appelle John Cale ou tous, on était à la recherche du mec qui aurait le secret du son et personne ne l'avait.
Il n'existe plus aujourd'hui.
Comment ?
Il n'existe plus.
Non, et voilà, justement, maintenant, n'importe qui peut, à partir d'un home studio, se faire quelque chose qui approche tous ses rêves. Les sons sont disponibles, tout est là et ça coûte 3 francs 6 sous. En tout cas, c'est très accessible à tout le monde. Et ça, c'est un énorme changement artistiquement. Après, il y a d'autres revers à la médaille, mais...
Mais ça donne une autre forme de DIY, en fait. C'est juste ça, moi, je dirais juste cette phrase. C'est qu'en fait, du coup, le fait maison est à un autre endroit.
Oui, voilà. Tout à fait. Et on s'occupe plus facilement aussi de ses propres pochettes, de sa propre esthétique, ce qui n'était pas facile non plus à l'époque du tout.
Oui, moi, j'ai l'impression qu'il y a eu vraiment une coupure et un changement de génération punk en 84-85. Moi, j'ai traversé les années 80, 81, 82, 83... Et le souvenir que j'en ai, c'est que d'abord, c'était une période qui était assez peu politisée, comme une sorte... juste avant les années 70, il y avait évidemment énormément de pensée politisée très forte, et il y avait un rejet de ça. Et cette pensée politisée, elle va revenir à partir de 86-87, avec ce dont vous parlez, Silly Hornet, tout ce qui a pu se passer avec les Bérus et ainsi de suite, avec des groupes beaucoup plus engagés. Concernant ces années 80, j'ai pas le souvenir du début, hein, 80-83, d'avoir une seule conversation politique, que ça soit aux Corses par exemple. Je sais pas si vous avez connu ce café, qui était redouté parce que il fallait être introduit, sinon on avait peu de chance d'en sortir vivant, d'après la légende. C'était une légende, mais il y a Marquis qui est là. Mais bon, ça a été une époque assez étonnante, mais qui était effectivement sur ce début des années 80, il y a eu l'arrivée de Mitterrand au pouvoir. Le Pen faisait 2% aux élections encore. C'est en 83 que ça va vraiment augmenter. Il n'y a pas le sida. Il y a un certain nombre de critères qui font que voilà, les choses sont un peu différentes de ce qui va se passer après, à l'époque du Pesner et tout ça. Et vraiment, comme l'a dit Solveig ce matin, c'est vraiment sur la musique que s'agrège en réalité le mouvement ici à Lyon. Et comme on parle peu politique, il y a des petits bourgeois qui fréquentent les prolétaires, et c'est sur la musique et des chapelles comme Radio Bellevue, comme le West Side Club, l'Auberge du Garon, des choses comme ça, que les choses vont vraiment se... Il y a toute une génération qui va se fédérer, avec évidemment des figures, mais qui vont payer un très lourd tribut. Moi, j'ai une copine là, qui est conteuse, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Myriam Pélican, qui était Javel, voilà, à l'époque, et qui me dit, mais moi, ils sont tous morts, mes potes. La bande du Corse, de l'Ampère et tout ça, il y a eu quand même des pertes très importantes. On parlait de Pivert, mais je ne sais pas ce qui est devenu Niakoué, je ne sais pas, voilà, des tas de gens comme ça... Bon, mais il y a eu quand même beaucoup de gens qui ont été, voilà, qui ont payé un lourd tribut. Et ce que je veux dire, parce qu'on est dans un théâtre, c'est que cette époque aussi, là, des débuts des années 80, c'est le doublement du budget de la culture par évidemment Lang et Mitterrand, et qui voit l'éclosion des compagnies indépendantes pour ce qui est du théâtre. Et il y a énormément de gens qui se sont qui ont pu embrayer sur une carrière artistique, des anciens punks, mais qui ont gardé toujours leur identité, qui ont imprégné la culture locale, notamment dans les théâtres. Il y a beaucoup de régisseurs, des metteurs en scène, des acteurs qui viennent de cette culture-là. Voilà, je pense Dan Marriott, par exemple, qui est quand même régisseur général des Nuits de Fourvière, mais qui continue à faire de la musique, qui voilà, et puis plein d'autres copains comme ça qui sont là-dedans. Voilà, ma question, voilà, pour faire vite, excusez-moi, c'est est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a, avec la fin de Bellevue, la fermeture du Palais d'Hiver, du West Side, qu'il y a vraiment une ère qui s'arrête pour un autre after punk qui redémarre? Peut-être plus intéressant d'ailleurs, parce que plus politisé, plus en prise à une vraie opposition par rapport à la société.
Alors, je vais répondre rapidement. Alors, d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, c'est clair. Sauf que là, la table ronde, c'était sur la diffusion. Donc, tu débordes complètement du sujet, mais tant mieux, et c'est très bien, parce qu'on en a déjà un petit peu parlé aussi ce matin dans la table ronde, qu'est-ce que c'est qu'être punk, etc. De la politisation, oui, alors moi je suis complètement d'accord, de toute façon, moi personnellement, ce qui m'a intéressé, c'était justement toutes ces prises de position. Il y avait aussi un background assez fort de tous ces groupes, ce qu'on appelle des groupes alternatifs français, dont Berruriers Noirs, Ludwig von 88, enfin tous ces groupes qui étaient sur Bondage. Il y avait un discours, effectivement, c'était une période où ça puait. Il y avait, on disait ce matin, il y avait des faffes un peu partout, ça se bastonnait, c'était craignos, etc. Oui, il y a eu effectivement tout ça, mais je pense que jamais au détriment de ce qui s'était passé avant ou ce qui allait se passer après. C'est-à-dire que voilà, c'est des périodes, il se passe ça. Tu évoques aussi les années Mitterrand. Moi, je suis absolument d'accord. Les années Mitterrand, c'est du budget à la culture, c'est le développement des cafés-musiques, le développement du statut d'intermittent. Donc, comme il y a beaucoup d'intermittents, comme on peut organiser beaucoup de concerts, donc on a la chance pour ces groupes-là, que ce soit tous les groupes alternatifs ou ceux qui vont venir après, c'est-à-dire qui ne chantent plus en français, qui se mettent à imiter les Américains ou les Anglais. Oui, ça joue partout. Moi, j'ai navigué à cette époque-là dans toute la France. Je ne sais pas combien de fois j'ai fait le tour de la France avec des groupes. Je suis allée dans des endroits, ça jouait partout. Effectivement, il y a eu, voilà, c'est comme ça, ça fluctue. C'est-à-dire que par moment, il y a des politiques qui aident à ce que ces cultures alternatives se développent. Et puis, par moment, bah, ça retombe, ça repart. C'est, voilà. Mais toujours porté par les réseaux. Et les réseaux, bah, c'est les radio, c'est les fanzines, c'est les idées, et puis c'est les gens qui font de la contre-culture, quoi.
Voilà. Alors les radios, Didier veut
ajouter quelque chose. Partie du pratiquement le seul groupe punk lyonnais à avoir fait des textes exclusivement politiques, puisque nos morceaux s'appelaient, on aurait pu l'écouter parce que je l'avais retrouvé, s'appelaient Politiciens, Démocratie, Démocrasseux, Dictateur, je vous donne les titres, hein, donc pour vous dire quand même, c'était quand même un petit peu, voilà. J'ai bien compris que tous les groupes punk lyonnais, ça les intéressait pas du tout. Donc, et que j'ai pas été très surpris de voir que la scène sur le plan politique, peu à peu, c'est pour ça qu'on s'est tous mis au pop. Moi, je me suis aussi finalement, j'ai abandonné. Est-ce que Mitterrand, ça a eu une importance? C'est bizarre, hein, parce qu'on n'arrive pas à revivre les choses. Hein. J'arrive même pas à savoir si Mitterrand, ça nous a fait changer sur le plan politique.
Ça les a ramollis, en tout cas, les choses, oui. D'un seul coup, tout venait bien. C'était, ah ouais, super, ouais, je crois qu'on est calme, on structure. Ouais. On a Jack Lang qui lance des tas de choses. Enfin, c'est très positif, mais en même temps, la haine de ce que tu décrivais tout à l'heure, le côté politique, en tout cas, qui est très caractéristique, lui, de la fin des années 60 et des années 70, ne revient que bien plus tard. Et puis, entre-temps, le coup de mou aussi, il est bien amélioré par la poudre qui fait, il y en a eu deux, trois occasions d'en parler, qui fait quand même pas mal de ravages à l'époque et qui ramollit bien les esprits et les énergies, il faut le dire.
Une dernière question, parce que ça fait trois fois qu'on me demande de couper. On aurait pu parler aussi simplement des adjoints à la culture et des maires de Lyon, et des différentes politiques entre Mur, Oudot, enfin, à peu près tous ceux que j'ai connus, Béguin, etc. Il y avait quand même des idées et des défenses un peu différentes dans tout ça, mais c'est un autre sujet.
Eh ben ça fera l'objet en tout cas de la prochaine session qui sera sur les Pénons de Lyon et le Festival Berlioz, parce que là ils ont quelque chose à dire effectivement.
J'ai voté contre la subvention. Je voudrais rebondir sur quelque chose que Kyle Robert a dit tout à l'heure sur l'intervention des collectivités. Alors j'ai fait que ça à partir de 2001, l'intervention de la collectivité sur le secteur.
T'es bien seul.
Si 2001 vous dit quelque chose pour les Lyonnais, il s'est passé quelque chose politiquement avec Béguin entre autres, qui lui n'avait aucune espèce d'idée de ce que pouvaient être les musiques actuelles. Et parfois, à part sous l'angle de la reconnaissance de certains modes de vie, par les dimanches soirs pluvieux, je me demande si j'ai bien fait. Voilà. Par rapport à ces années de do it yourself, justement. Ça, c'est une question. L'intervention de la collectivité est-elle fructueuse sur la diffusion, sur la création? Mais je vous propose de ne pas y répondre du tout. C'est vraiment un débat à part entière. Il me faudrait, enfin, moi, il me faudrait la demi-journée.
Mais si, tu as forcément bien fait. Il n'a pas été inutile, mais tu étais bien seul et il n'y a pas eu beaucoup d'actions de la municipalité. C'est que très récemment qu'elle s'intéresse et qu'elle se retourne un peu sur ce passé et que ça va être de plus en plus le cas. Là, on s'aperçoit que la nouvelle municipalité, qui est Pénéquian en tête, veut remettre à l'honneur ces années glorieuses de l'underground lyonnais.
C'était l'ancien agent de la culture, qui est Pénéquian aussi.
Oui, bien sûr, oui. Et que donc c'est tout récent si le Lyon se retourne un peu et s'intéresse à ses activités.
Ça dépend, parce que si on voit le festival des musiques, vous savez, Nuit Sonore.
De quel point de vue ? Moi, je pense que c'est une continuité aussi. Et d'ailleurs, les gens qui l'ont fondé se sont formés en écoutant Radio Bellevue et connaissent le rock et ils font référence dans toutes les éditions.
Je pense qu'ils sont partis d'une bonne chose. Mais en fait, tout ça a absorbé. En fait, ce qui attire aujourd'hui les gens vers les nuits sonores, c'est quelque chose de complètement super, on va s'éclater aux nuits sonores, complètement bourgeois vraiment, qui est dans l'esprit de la ville en fait finalement. C'est du ressuscitage de l'underground, du recyclage total quoi. Et franchement, enfin pour nous les jeunes,
c'est autre chose.
C'est quelque chose d'horrible quoi. Enfin vraiment, c'est horrible. La peur des nuits sonores, on évite le centre-ville quoi. Et voilà comment. C'est comme le rock alternatif a réussi à amener en fait ce côté-là de récupération du rock. Il y avait un ministre du rock, si je comprends bien à l'époque quoi. Voilà ce que ça a donné. Donc
ministre du rock.
Ouais, ouais, il y avait pas le ministre, Monsieur Rock, qui avait un budget culture au niveau du rock et qui finançait les groupes.
Donc voilà, mais on avait nous aussi un Monsieur Rock.
On en arrive.
Je vous propose de poursuivre ce débat qui est un débat important. On va devoir enchaîner justement avec un élément autour de la politique municipale, puisqu'on va voir Cyril Michaud. Alors c'est pas la mairie, c'est la bibliothèque municipale de Lyon qui va présenter justement un travail sur la musique contemporaine et Marguerite Zion qui va présenter aussi son travail sur la patrimonialisation. Donc là, en fait, on va pouvoir enchaîner peut-être.
Oui, on va enchaîner. Alors, merci à vous quatre.